Nous sommes tous citoyens. Pierre Guelph.
Depuis des décennies, des rumeurs particulièrement négatives continuent de jeter un certain trouble quant au fonctionnement démocratique de l'Opus Dei, ou prélature de la Sainte Croix, ordre catholique romain, fondé par José María Escrivá de Balaguer en 1928. Il est composé de laïcs et de prêtres et promeut, entre autres, la sainteté au milieu du monde. Il comptait quelque 90 000 membres dans plus de 60 pays en 2013. Néanmoins, cet ordre présente une image sulfureuse et réplique aux accusations et polémiques par son souci de discrétion, qu'il ne serait pas question de sacrifice corporel comme décrit par d'anciennes victimes, mais de discipline qui règne de manière stricte en son sein, que les financements occultes, eux, ne seraient que des dons. Alors, où en est-on depuis notre reportage sur ce sujet en mai 2016? Philippe Liénard, avocat, auteur et conférencier, publie en janvier 2018 un ouvrage consacré à l'Opus Dei. Et Fréquence Terre a pu, en exclusivité, recueillir ses impressions lors d'une longue interview alors que l'encre de cet essai était à peine séchée. Avant toute chose, que signifie Opus Dei ?
Alors l'Opus Dei en latin c'est œuvre de Dieu, et lorsque ce mouvement est né, on le situe en 1928, ça ne s'appelait pas comme ça, puisqu'on appelait ça la pieuse union.
En ce mois de janvier 2018, vous publiez un livre sur l'Opus Dei. Quel sera son contenu et, sous question, en quoi va-t-il se différencier des nombreux ouvrages parus jusqu'à présent?
Alors les ouvrages que l'on peut trouver actuellement au sujet de l'Opus Dei sont ou bien des ouvrages écrits sur base de témoignages de personnes qui ont fait partie de l'Opus Dei, qui en sont sorties et qui racontent des choses fort peu agréables sur le sujet, ou bien des livres qui bénéficient du Nihil Obstat et de l'imprimatur de la prélature de la Sainte Croix, et dès lors ne sont intéressants que pour ceux qui sont déjà convaincus. J'ai voulu écrire un livre qui ne soit ni un livre qui balance des choses à la tête de l'Opus Dei, ni un livre qui encense l'Opus Dei, mais un livre de philologie déconstructive qui va à la racine des choses, qui explique d'où vient l'Opus Dei, comment s'est ramifié l'Opus Dei, pourquoi s'est développé l'Opus Dei, que fait l'Opus Dei, quel est son pouvoir réel, quelles sont ses relations avec la franc-maçonnerie ou les francs-maçons, et quel est le rôle de l'Opus Dei et son projet pour la société de demain.
Un membre de l'Opus Dei qui me dit « C'est bien de publier pareil reportage, mais il faut aller à la base et aux racines. » Donc, si je comprends bien, elle suggère d'interroger des anciens.
Où je vous inquiète, je ne suis pas membre de l'Opus Dei, ni numéraire, ni surnuméraire, ni coopérateur. Mais par contre, il est intéressant de savoir, mais pour ça il faut consulter l'annuaire pontifical, qui sont les membres de l'Opus Dei et surtout qui sont les proches de l'Opus Dei, parce que l'Opus Dei véhicule tout un cortège de coopérateurs et ratisse terriblement large. Il n'est pas exclu pour l'Opus Dei d'être maçon ou d'être musulman ou d'être quoi que ce soit et d'être coopérateur. Et ça, c'est une force de l'Opus Dei qui bénéficie ainsi d'un tissu de pénétration culturelle, sociologique, économique et politique qui peut être inquiétant. Et j'en parle notamment dans mon livre parce que, à titre d'exemple, peu de gens savent qu'un des pères fondateurs de l'Europe, Robert Schuman, était un très très proche de l'Opus Dei. Peu de gens se doutent que le pape actuel, qui est le premier jésuite à être monté sur le trône pontifical, n'a pas pu être élu sans le concours de l'Opus Dei et sans une sorte d'accord préalable qui date d'il y a quelques années, et que ce n'est pas un hasard si Joseph Ratzinger a abandonné pour la première fois aussi dans l'histoire son trône pontifical. Mais ça, en lisant le livre, on en sait un peu plus. On sait par exemple que Escrivá de Balaguer avait comme directeur, c'est le fondateur de l'Opus Dei, avait comme directeur de conscience un jésuite. on sait que Escrivá de Balaguer et ses proches ont fait concurrence à l'ordre des jésuites et ça n'a pas fait plaisir à cette congrégation qui a vécu des heures difficiles. Mais l'histoire se venge puisque l'Opus Dei, bien qu'on puisse penser le contraire, n'est pas une mouvance qui a le vent en poupe. L'Opus Dei est en régression et ça on ne le dit jamais. Le nombre de vocations de prêtres dans l'Opus Dei diminue, le nombre de numéraires de l'Opus Dei diminue, le nombre de surnuméraires diminue. Par contre, le nombre de coopérateurs augmente. Pourquoi ? Parce que l'Opus Dei fait un peu comme l'extrême droite en France. Pendant une époque, l'extrême droite en France n'était pas fréquentable. Aujourd'hui, elle se donne un visage de parti politique entre guillemets normal, en ne parlant plus de certains sujets. L'Opus Dei fait exactement pareil, c'est-à-dire que l'Opus Dei a engagé des communicants de telle manière que cet opus se donne un visage fréquentable et normal.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de lobby que l'on retrouve par exemple sur certains campus universitaires? On m'a dit
que de la prélature de la Sainte-Croix et de l'Opus Dei de créer des résidences d'études, notamment pour les jeunes, de manière effectivement, on peut dire, à les embrigader. C'est un peu long de raconter ça dans le cadre de cette interview, mais effectivement c'est une technique connue et l'Opus Dei a implanté des centaines de résidences comme ça partout. Alors il y en a quelques-unes en Belgique, je les cite dans mon livre et je donne même les adresses puisque de toute façon c'est pas secret. Et effectivement, l'Opus Dei a tenté une première fois de s'implanter sur le campus de l'université de Louvain-la-Neuve et c'est à l'époque le vice-recteur Gabriel Ringlet qui avait exigé que l'Opus Dei, s'il voulait exister, ne fasse pas autrement de la pub qu'en son nom. Parce que les membres de l'Opus Dei et les promoteurs de l'Opus Dei sur le campus universitaire ne disaient pas qu'ils étaient membres, ne disaient pas qu'ils étaient proches, mais faisaient valoir les idées de l'Opus Dei. Gabriel Ringlet a dit, vous arrêtez de faire ça, ou alors vous dites qui vous êtes. Alors depuis, se sont écoulées quelques années, et effectivement l'Opus Dei est présent partout, dans certains milieux, notamment dans cette université-là, mais pas que dans celle-là.
Dans mon reportage, j'avais interpellé l'archevêché de Belgique, les évêques de France, jusqu'au Vatican. À part l'archevêché de Belgique qui m'a répondu, mais de manière très sibylline, c'était le grand silence, ou alors, vous savez, des réponses qui n'en sont pas. Est-ce que cela vous étonne, cette chape qu'il y a sur dès que l'on évoque le Opus Dei?
Mais ça n'est pas surprenant parce que dans la constitution de l'Opus Dei de 1982, ses membres sont tenus au secret. Au secret par rapport à ce qui s'y passe, au secret par rapport à leur appartenance. Et aujourd'hui encore, ce secret est lourdement respecté puisque jamais un membre de l'Opus Dei ne prendra la parole librement, si ce n'est parce qu'il a été mandaté pour le faire dans un cadre particulier. C'est d'ailleurs ce qui fait tout le succès des ouvrages de repenti, si j'ose dire, de l'Opus Dei, qui se confient à des journalistes qui font très bien leur travail et qui expliquent ce que ces gens ont sur le cœur. C'est parce que précisément l'Opus garde un lourd secret. Mais aussi, il faut bien le dire, l'Opus Dei échappe aux règles de la hiérarchie ecclésiastique normale. L'Opus Dei, c'est une prélature personnelle du pape et n'a donc de compte à rendre qu'au pape et à personne d'autre. À la tête de l'Opus Dei se trouve un prélat qui dirige d'une main de fer cet Opus Dei. C'est un scoop peut-être ce que je vais vous dire, mais pour la première fois dans l'histoire, l'actuel prélat de l'Opus Dei est Monseigneur Ocaris, c'est un Français, né à Paris, ça n'est jamais arrivé. Il est d'origine espagnole comme son nom peut le laisser supposer, mais c'est la première fois qu'un Français est à la tête de l'Opus Dei. Le prélat de l'Opus Dei n'est pas seul à diriger l'Opus, mais ses structures échappent totalement à la structure cléricale classique.
C'est un pouvoir au sein de l'Église.
C'était clairement un pouvoir de grosse influence au sein de l'Église sous le pontificat de Jean-Paul II, qui était extrêmement proche de l'Opus Dei et qui, je pense, ne serait pas devenu pape sans le concours de l'Opus Dei. Jean-Paul II, au cours de ses 26 ans, je pense, 24 ou 26 ans de pontificat, a eu largement le temps de mettre en place une présence extrêmement importante de l'Opus Dei au sein de la curie romaine. Son successeur a continué le mouvement, ils étaient d'ailleurs très proches. Et aujourd'hui, la question de savoir si l'Opus Dei est une église dans l'église ou un pouvoir dans l'église, je n'ai objectivement pas de réponse à cette question-là, parce que j'ai plutôt envie de vous dire que l'Opus Dei s'est transformé en une sorte de lobby multinational économique de pression spirituelle, mais pas que au sein du Vatican. Et l'Opus Dei a largement dépassé les simples objectifs apostoliques du Vatican.
Quand j'ai effectué mon reportage, j'étais jusqu'à Paris et j'ai été très très étonné de voir le siège, un des sièges de l'Opus Dei dans des bâtiments qui sont quand même pas des HLM. Alors, il y a un pouvoir financier qui finance, qui soutient l'Opus Dei.
Alors, votre question est un peu délicate parce que, d'une part, officiellement, l'Opus Dei ne possède rien. L'Opus Dei est pauvre, c'est dans ses statuts. Donc, tout ce que peut posséder la mouvance de l'Opus Dei, c'est par l'intermédiaire de fondations, d'associations, et tout ça est extrêmement ramifié partout. Alors, d'où vient l'argent de l'Opus Dei? Alors, d'autres que moi ont fait l'exercice d'essayer de chiffrer quelles étaient les ressources de l'Opus Dei. Je suis incapable de vous le dire, parce que c'est tellement nébuleux. Mais, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, à titre d'exemple, le président du comité international olympique, l'ancien Juan Antonio Samaranch, était un proche de l'Opus Dei, ça n'est pas un secret. Il n'est pas un secret non plus qu'un certain nombre de droits de diffusion des activités olympiques bénéficiaient d'une manière indirecte à l'Opus Dei. Ce sont des grosses rentrées. Il n'est pas un secret non plus, enfin je crois, pour moi ce n'est plus un secret en tout cas, que les 114 voyages que Jean-Paul II a fait, une partie de tous les produits dérivés de sa personne qui ont été vendus lors de ces multiples voyages de ce pape voyageur, ont bénéficié indirectement à l'Opus Dei. Les coopérateurs de l'Opus Dei, qui ne sont pas donc des membres, peuvent faire des dons à l'Opus Dei. Alors, l'Opus Dei doit refuser les legs, ne peut pas hériter, mais peut accepter les dons, comme toute association finalement. Et l'Opus Dei bénéficie parfois de dons assez conséquents, d'hommes d'affaires assez importants, j'en parle dans mon livre. Force est de constater que l'Opus Dei bénéficie via ses coopérateurs de sommes parfois conséquentes, mais là vous comprendrez que non seulement je ne puisse pas citer de nom, mais qu'en plus, la vérification de ces affirmations-là n'est pas simple. Donc, je n'ai pas non plus envie que cette interview soit un nid à procès. Mais, par contre, il est clair que l'Opus Dei possède des bâtiments extraordinaires. À New York, le siège de l'Opus Dei est un immeuble cossu sur Arlington Avenue, je pense, et c'est un immeuble de 17 étages. La résidence de l'Opus Dei en Belgique, est beaucoup plus modeste, elle se trouve avenue de Floride à Bruxelles. Il suffit d'aller se promener par là et on voit dans la discrétion, mais on voit. À Paris, l'Opus Dei bénéficie d'une série de sites d'implantation et ce ne sont jamais des bâtiments pourris. Mais il y a aussi des communications qui sont véhiculées par l'Opus Dei qui consistent à dire « on a des difficultés financières, on ne peut pas faire fonctionner nos écoles ». L'Opus Dei n'a pas d'école. Mais l'Opus Dei s'est implanté dans des écoles dont il dit « Ah, mais ce sont les parents qui ont tenté d'organiser une école et qui ont fait appel à nos bons services pour venir assurer une certaine éducation à leurs enfants. »
Quelle idéologie se cache, je vais mettre entre guillemets, ou une philosophie derrière l'Opus Dei? Excusez-moi. L'élitisme?
L'élitisme, au début, était clairement la zone de recrutement de l'Opus Dei, mais l'Opus Dei est descendu dans les couches sociales pour recruter des membres de manière plus large. Alors son projet est un projet de société qui est exactement l'inverse du projet de société d'amélioration de l'humanité de la franc-maçonnerie. Et c'est pour ça que j'ai dans mon bouquin aborder les relations ou les rapports qu'il pouvait y avoir entre les deux. L'Opus Dei a un projet de société qui est une société d'obéissance, où la liberté de penser n'existe pas, où on a un directeur de conscience et où on travaille sans se plaindre en écoutant ce que le chef hiérarchique ou le directeur de conscience a décidé. C'est une société liberticide.
Pierre Guelf pour Fréquence Terre.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.